Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un livre de l'Ancien Testament. C'est le livre de Ruth. D'accord. Là, nous sommes dans la période des juges dans la Bible. Hein. C'est une période qui est traversée de conflits entre Israël et les pays voisins. Ça, c'est du point de vue de l'histoire humaine. Mais dans le livre de Ruth, on peut lire aussi en arrière-plan une autre histoire qu'on pourrait appeler l'histoire divine, hein, l'histoire du Seigneur. Dans cette histoire, le Seigneur est en train de développer une lignée généalogique particulière. Cette lignée, elle est partie d'Adam. Hein, elle a passé par Abraham, par Isaac, Jacob. Et puis maintenant, au temps de Ruth, elle se prolonge par un homme appelé Boaz. Et dans l'avenir, elle va se poursuivre par le roi David. Et elle va aboutir finalement à Jésus. Autrement dit, le livre de Ruth nous fait entrevoir quelque chose du déploiement d'une grande œuvre de Dieu, hein, qui est en train de dérouler à travers toute l'histoire humaine cette œuvre. Et c'est même la grande œuvre de Dieu, parce que c'est par cette généalogie que Jésus va entrer dans le monde. Alors, voyons ce qui se passe concrètement. Au début du livre de Ruth, voilà qu'une famine éclate en Israël. Et sous la poussée de cette famine, eh bien, un homme s'exile en Moab. Il s'appelle Elimelech. Il part avec sa femme et ses deux fils. Ils viennent de Bethléem. Mais la famine dure, et Elimelech meurt, et ses deux fils se marient, et ses deux fils meurent aussi. Tout ça sur une période d'environ 10 ans. Il reste alors la mère, Naomi, et puis ses deux belles-filles. Mais la famine prend fin en Israël, et Naomi décide de retourner chez elle à Bethléem. L'une de ses belles-filles décide alors de retourner chez les siens. Mais l'autre belle-fille, Ruth, elle décide de s'attacher à sa belle-mère et ainsi elle va suivre Naomi en Israël. Ce qui, n'est-ce pas, au passage, pour elle, ça signifie partir à l'étranger. À propos, dans la langue originale, en hébreu, Ruth, ça veut dire une amie, hein, quelqu'un qui s'attache. Et alors Naomi et Ruth arrivent à Bethléem, mais elles sont là sans rien. Or, il faut bien vivre. Et c'est le temps de la moisson. Alors Ruth dit à Naomi, « Laisse-moi aller glaner dans un champ derrière les moissonneurs, là où on me laissera faire. » Et puis, elle se rend dans un champ des environs. Et voilà qu'arrive le propriétaire du champ qui vient voir comment avance sa moisson. Et ce propriétaire, c'est justement Boaz. Alors, écoutons le texte. C'est au chapitre 2, le verset 5. Je lis. « Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme ?» Donc, Boaz regarde ce qui se passe. Et évidemment, hein, il remarque Ruth, qui est à l'arrière de tout le monde, de tous les autres, et qui ramasse les épis oubliés. Pas de problème. En Israël, ça, c'est permis. Néanmoins, bien sûr, Boaz se renseigne auprès du chef des moissonneurs. Hein, parce que c'est normal. Comme il est le patron, il doit voir, comprendre ce qui se passe et prendre les décisions appropriées. D'ailleurs, regardez sa question. À qui est cette jeune femme? Hein, c'est-à-dire, à quel corps social est-ce qu'elle appartient? À quelle famille? Parce qu'évidemment, en Israël aussi, le fait qu'on appartienne à tel ou tel groupe, ma foi, ça va orienter, aligner, définir la manière dont on va être accueilli. Mais écoutez la réponse du serviteur. C'est au verset 6. Je lis. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » C'est-à-dire qu'ici, le serviteur dit deux choses. D'abord, cette femme n'est pas de chez nous, elle est moabite. Cependant, elle est quand même un peu de chez nous. Elle est venue avec Naomi, qui, elle, est de Bethléem. Vous vous souvenez, au début, Naomi et toute sa famille étaient partis de là. Et Naomi a accueilli Ruth dans sa famille. Et puis aussi, écoutez ce que le serviteur dit un peu plus loin. C'est la deuxième partie du verset 7. Je lis. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Et elle s'est reposée qu'un moment dans la maison. Elle a été debout jusqu'à présent. Le serviteur souligne le courage de Ruth et aussi du coup son engagement dans le soutien de Naomi. Il montre que Ruth c'est quelqu'un de bon. Et elle prouve sa bonté par son engagement à l'intérieur de sa situation de vie. Sa situation de vie qui est une situation de pauvreté, mais de pauvreté choisie pour ne pas laisser sa belle-mère seule. Parce que, effectivement, l'autre belle-fille, celle qui a décidé de repartir chez les siens, elle s'est retrouvée probablement dans une situation bien, bien meilleure. Cette autre belle-fille, d'ailleurs, elle s'appelait Orpa. Et en hébreu, Orpa, ça signifie celle qui tourne le dos. Alors, faisons le point. Et ici, essayons de regarder les choses du point de vue de l'œuvre de Dieu. Au moyen d'une famine, Dieu a envoyé Naomi et sa famille en Moab. Et puis, 10 ans plus tard, il a ramené à Bethléem Naomi et sa famille, enfin non, Naomi toute seule, juste avec Ruth. Et Naomi, elle a tout perdu. Elle est ici avec Ruth, avec sa belle-fille. Et puis, maintenant, voilà que Ruth s'en va glaner dans un champ des environs. Et là, elle se fait remarquer à cause de son courage. Et cela, même par Boaz, le patron. Et maintenant, écoutez ce que Boaz lui dit. C'est au verset 9. Je lis. « Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle, c'est-à-dire mes servantes. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. » Alors Boaz ne connaît pas Ruth. Hein, il sait juste qu'elle est moabite. Et donc, par conséquent, qu'en tant qu'israélite, il ne devrait pas trop se soucier d'elle. Et effectivement, pour le moment, hein, Boaz, il ne fait pas grand-chose pour Ruth. Il l'accueille dans son champ. Mais finalement, les épis que Ruth va ramasser, pour lui, ils seraient perdus, de toute façon. En fait, Boaz, il ouvre juste un peu le chemin devant Ruth, en lui permettant d'aller boire, et puis aussi en défendant à ses serviteurs de la toucher. Alors, c'est, disons, juste une bonté toute humaine, et qui d'ailleurs n'est pas sans raison. Pardon. Écoutez le verset 11. Je lis. Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. » C'est-à-dire, Boaz a reconnu le courage et l'engagement de Ruth. Et c'est ça qui l'a amené à avoir une attitude bienveillante envers elle. Alors, disons que fondamentalement, du point de vue de l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même qui accueille Ruth à travers Boaz. Mais aussi, du point de vue de l'œuvre humaine, ça, c'est Boaz qui accueille Ruth avec bonté, parce qu'il a vu la bonté de Ruth envers Naomi. D'ailleurs, Boaz, il va même un peu plus loin. Écoutez le verset 15. Puis, elle se leva, donc Ruth, elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Maintenant, Boaz offre à Ruth plus que juste de l'eau. Il lui offre des épis supplémentaires. Et puis voilà qu'à la fin de la journée, Ruth revient chez elle. Elle parle de tout cela à Naomi. Et là, justement, intéressant, écoutez la réponse de Naomi. C'est au verset 20. Je lis. Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Alors, Naomi reconnaît la bonté de Boaz. Mais surtout là derrière, elle reconnaît la bonté de Dieu. Elle parle de sa miséricorde. Et elle voit, hein, Naomi, elle voit que quelque part, cette bonté de Boaz, elle fait partie d'un plan de Dieu pour elle-même et pour Ruth. Si Ruth est allée glaner dans le champ de Boaz plutôt que dans un autre, ce n'est pas un coup de chance. Là, c'est Dieu qui a dirigé les choses par derrière. Parce que, justement, Boaz est un parent de Naomi. Et par alliance, eh ben, de Ruth aussi. Et donc, il a droit de rachat sur elle. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, voilà. Naomi cherche à revendre le champ de son mari décédé. Et pour ce genre de cas, il y a une règle juridique en Israël. C'est que les membres de la famille les plus proches, eh bien, ils passent avant les autres comme acheteurs potentiels. C'est ça le droit de rachat. Or, Boaz, il est parent de Naomi et il a ce droit. Cependant, dans cette loi, il y a aussi une clause supplémentaire. C'est que celui qui rachète le champ d'un homme décédé, eh bien, il doit aussi épouser sa veuve. Alors, passons les détails. Mais Boaz finit par acheter le champ de Naomi. Et puis, dans la foulée, eh bien, ma foi, il épouse Ruth comme le prescrit la loi. Israël, c'est un pays où on peut avoir plusieurs femmes. Donc, voilà pourquoi il y a cette règle. Écoutez un peu plus loin dans le texte. C'est au chapitre 3, les versets 9 et 10. Alors, Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Maclon, donc son mari et ses deux fils, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Maclon, pour relever le nom du défunt de son héritage. » Voilà. Et puis avec le temps, eh bien, Ruth et Boaz vont avoir un fils qui s'appelle Obed, et ce Obed va être le grand-père du roi David. D'ailleurs, et ça c'est intéressant, c'est le dernier verset, ce renseignement, c'est le dernier verset du livre de Ruth. Ça veut dire sa conclusion. Ça veut dire que le livre de Ruth concerne cela. Entre autres, peut-être, mais c'est très important. En fait, dans cette histoire, Dieu a amené Ruth dans le champ de Boaz, ce qui a noué entre Boaz et Ruth des relations, et à travers ça, sans que personne ne s'en rende compte, Dieu a fait avancer son œuvre. Je veux dire, Dieu a fait avancer cette généalogie particulière qu'il est en train de développer à travers les siècles pour amener Jésus dans le monde. Alors, réfléchissons. Dieu, selon son plan, a fait entrer Ruth, la Moabite, dans cette généalogie divine. C'est cette généalogie qu'il a raccroché à Abraham, Isaac, Jacob, qui est arrivé jusqu'à Boaz et qui va continuer jusqu'à David et jusqu'à Jésus. Et ça, c'est sa grande œuvre, nous avons dit. Mais en fait, ici, dans cette histoire, il y a deux acteurs principaux. Bien sûr, d'abord, le Seigneur lui-même qui fait son œuvre. Le Seigneur qui allait chercher Ruth, la Moabite, de le pays de Moab, qui l'a ramenée à Bethléem, la future ville royale, et puis qui l'a intégrée dans son peuple et même dans la généalogie divine. Mais ensuite, il y a aussi Boaz. Et Boaz, il est entré dans l'œuvre du Seigneur. Mais lui, il n'a pas obéi spécialement à un ordre de Dieu. Il a simplement fait ce qui lui paraissait juste dans la situation où il se trouvait. Il a accueilli Ruth dans son champ. Et puis, il a accueilli Ruth avec humanité, mais finalement sans excès. Alors, essayons de regarder les choses d'en haut. Hein, le Seigneur poursuit son œuvre selon son plan. Et Boaz, lui, il entre dans l'œuvre du Seigneur sans le savoir, simplement en agissant avec bonté. Voilà, ça c'était autrefois à l'époque de Ruth. Mais aujourd'hui encore, le Seigneur poursuit son œuvre dans le monde, hein, à travers les cultes, comme aujourd'hui, à travers l'Église avec grand E, à travers l'évangélisation, à travers la traduction de la Bible dans toutes les langues où elle n'existe pas encore, etc., etc. Et là, ça vaut aussi la peine de regarder les choses d'en haut. Parce que finalement, l'œuvre du Seigneur dans le monde, eh bien, cette œuvre, elle se passe aussi à l'intérieur de nos existences individuelles. Hein, par exemple, à travers notre participation au culte et à travers notre témoignage. Et pour nous, finalement, c'est comme pour Boaz. Dans la majorité des cas, le Seigneur nous fait entrer dans son œuvre sans que nous nous en rendions compte, en tout cas sur le moment même. Hein, comme Boaz, au début, souvent nous entrons dans les œuvres du Seigneur juste en réagissant avec bonté dans une situation donnée. Du coup, là, il y a un appel pour nous. Cet appel, c'est simplement de déjà pratiquer au jour le jour envers ceux que nous rencontrons ces petits actes de bonté tout concrets lorsqu'ils se présentent. Cependant, ici, dans cette histoire, nous pouvons aller un cran plus loin à l'écoute de la parole de Dieu, hein, et centrer le message encore un peu sur un aspect particulier de notre monde d'aujourd'hui. Là, je parle des migrants qui essayent de s'intégrer chez nous et puis de notre relation avec eux. Parce que finalement, n'est-ce pas, ça, c'est pile la situation dans laquelle Boaz se trouve dans cette histoire. Hein, Boaz, il soutient Moabite. Et en faisant ça, sans le savoir, il participe à amener Jésus dans le monde. Eh bien, nous aussi, dans son œuvre, le Seigneur nous appelle à amener Jésus dans le monde qui nous entoure. Ça, en devenant ses témoins. Et ça, concrètement, y compris en soutenant autour de nous les migrants qui sont dans le besoin, comme Ruth ici. Pardon. D'ailleurs, quelque part, nous sommes comme Boaz. Nous non plus, nous ne saurons jamais à l'avance dans laquelle de ces grandes œuvres le Seigneur pourrait nous emmener. Alors, si dans notre voisinage, nous avons contact avec un migrant qui essaye de s'intégrer, eh bien, soyons prêts à saisir les occasions pour l'accompagner sur ce chemin. Même déjà par de toutes petites choses. Comme Boaz, ici, au départ. Finalement, c'est aussi ça, obéir au Seigneur. Tout à l'heure, nous avons chanté sur la fidélité de Dieu. Eh bien, justement, ces occasions que le Seigneur nous donne, c'est aussi une expression de sa fidélité. Hein? C'est comme des petits premiers pas de nos engagements envers lui, dans son œuvre. Alors, je conclus. Dans le livre de Ruth que nous avons parcouru, il y a comme deux actions parallèles. Hein? D'une part, à l'avant-scène, on voit une mère de famille, Naomi, qui quitte Bethléem pour Moab et qui en revient 10 ans plus tard avec une belle-fille, Ruth. Et c'est à la fin, cette Ruth, elle va épouser Boaz, un des proches parents de Naomi. Ça, c'est le premier plan. Mais à l'arrière-plan, on discerne aussi l'action de Dieu pour le salut du monde. Dieu est en train de développer, disons, sa propre généalogie. C'est une lignée généalogique qui vient depuis Abraham, qui passe par Boaz, et puis de laquelle va naître Jésus. Et premièrement, nous avons vu comment, à travers Boaz, Dieu a intégré Ruth dans cette généalogie divine. Et aussi, comment, de son côté, Boaz a répondu et participé à cette œuvre de Dieu. Ce qui, au départ, s'est fait juste à travers des petits actes de bonté de sa part. Et puis, deuxièmement, nous avons aussi entendu un appel pour nous dans cette attitude de Boaz. Cet appel, c'est de pratiquer envers ceux que nous rencontrons le bien, et cela déjà juste à travers ces petits actes de bonté tout simples qui se présentent sur nos chemins. Parce que finalement, c'est aussi à travers eux que le Seigneur nous fait entrer dans ses œuvres, même les plus grandes. Et ici, en outre, nous avons vu qu'à la suite de Boaz, on peut même aller un cran plus loin dans l'écoute de la parole de Dieu qui résonne dans ce texte. Et ici, nous avons dit accueillir simplement ces hommes et ces femmes qui vivent autour de nous, mais qui ne sont pas de chez nous. Et cela déjà en commençant à travers ces petits actes de bonté tout simples. D'ailleurs, laissez-moi, pour finir, vous rappeler quelque chose que l'apôtre Jean nous dit dans sa première épître, là où il parle spécialement de l'amour pour le prochain. C'est au chapitre 2, et c'est dans les versets 7 et 10. Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta fidélité dans nos vies. Merci parce que tu es le souverain et tu es fidèle, tu ouvres les chemins. Aide-nous, Seigneur, à repérer les occasions que tu nous donnes de faire le bien en ton nom. Amen.